Vous écoutez
RMC.
RMC. Coupe du monde de la FIFA 2022.
Des grandes gueules du sport.
C'était autrefois au Danemark.
Attention à l'enchaînement du centre pour Dolbert. Et le but. Ça frappe derrière. Et le but. Qu'est-ce qu'on voit le faire. Les Danois qui récupèrent le ballon et qui égalisent par l'intermédiaire de Cornelius. Cornelius avec Saliba.
Oh là là.
Oh le but. Oh le but. Oh le but de Cornelius.
Au soir de la deuxième journée, je reviendrai à la tête de 5000 hommes.
Est-ce que la France est prête pour affronter le Danemark?
Je sens que ça va encore être capital.
Le sélectionneur et les joueurs danois nous connaissent.
Lorsqu'on regarde un petit peu ce qui a été fait sur le premier match entre la Tunisie et le Danemark, il y a beaucoup de travail à faire.
Je l'ai dit plusieurs fois qu'elle était sous-cotée par rapport à sa valeur réelle. Elle nous a fait des misères. Beaucoup de misères.
Ce jour est à marquer d'une croix.
C'est le principal adversaire des Bleus, le Danemark, 10e nation mondiale. La finale de ce groupe D, les Danois qui nous ont giflé la fesse droite en juin dernier, puis la gauche en septembre. Un honneur à laver, une qualification à aller chercher. Mais en cas de contre-performance, évidemment, les Bleus auront toujours leur destin en main pour le troisième match face à la Tunisie. Tout de même, la musique qui fout les jetons et cette question. Ce match est-il capital pour la suite? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Non.
Stephen Brun.
Oui.
Denis Charvet.
Non.
Jean-Louis Tour.
Évidemment.
David Douillet.
Non.
Oh, je me retrouve avec Jean-Louis.
Incroyable.
C'est spécial. On va se balader si peu. Non, ça va être génial.
C'est du 2 contre 3, ça va être magnifique. Avant de débattre, on va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux auprès des Bleus. À Doha, c'est Loïc Braillet. Salut Loïc.
Salut Jean-Louis, j'y sais pas.
Salut Loïc.
Et salut les grandes gueules.
Merci.
C'est bien de saluer un vrai présentateur, Loïc, t'as raison.
Vous savez quoi? J'ai aucune répartie, donc on va enchaîner.
Pas d'avoir.
Mon cher Loïc, les Bleus redoutent-ils ce match?
Alors, redouter, non, mais ils savent très bien à qui ils ont affaire, évidemment. Tout simplement, l'équipe que la France ne bat plus en phase finale de Coupe du Monde ou d'Euro depuis l'an 2000. Les deux derniers matchs de Ligue des Nations en juin et septembre, deux défaites. Et Didier Deschamps en a un peu marre de cette équipe.
Je l'ai dit plusieurs fois qu'elle était sous-cotée par rapport à sa valeur réelle. Elle nous a fait des misères, beaucoup de misères. Donc c'est de faire en sorte qu'on inverse la tendance. Le sélectionneur et les joueurs danois nous connaissent. La situation des deux équipes n'est pas forcément la même pour demain, mais il y aura une analyse. Et évidemment, tout ce qu'il y a eu avant sert, nous sert, mais sert aussi à l'équipe danoise.
Alors chez les joueurs, on se montre très vigilant aussi. Ils savent très bien que ce sera une toute autre adversité que l'Australie. Écoutez le milieu de terrain marseillais, Matteo Guendouzi.
Je trouve que le Danemark, c'est une équipe qui est un peu sous-cotée. Donc faut pas l'oublier que c'est comme ils sont quand même 10e, je crois, au classement FIFA. Pour moi, ça, ils font partie des 4 meilleures équipes en Europe. Aujourd'hui, ça va être un match de Coupe du Monde. Donc on est tous prêts à les affronter. Mais en tout cas, c'est sûr qu'ils ont une superbe équipe qui joue très bien au ballon, qui mettent beaucoup d'intensité. Donc voilà, c'est une belle équipe. Mais en tout cas, on sera prêts pour ce match.
Une stat permettra peut-être de donner quand même de la confiance aux supporters des Bleus. Au-delà de la qualif pour les huitièmes de finale qui se jouent cet après-midi, à chaque fois que les Bleus ne perdent pas contre le Danemark en phase de poule, donc victoire ou nul, ils gagnent la compétition. C'est arrivé 4 fois, Euro 84, Euro 2000, Coupe du Monde 98 et Coupe du Monde 2018.
Merci Loïc pour cette stat et pour toutes ces précisions. Tu restes avec nous pour le débat, mais aussi pour nous donner les dernières infos compos. Ce sera dans quelques instants. Et donc le 11 que devrait aligner Didier Deschamps. Ce match est-il capital pour la suite? C'est notre débat, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Je devais commencer par Jean-Louis, mais vu qu'il a été désagréable, je vais commencer par Stephen Brun. Stephen, pourquoi oui?
Parce que déjà plusieurs choses. Quand tu as la possibilité de te qualifier au bout du deuxième match dans une Coupe du Monde, il faut le faire. Parce que c'est beaucoup trop dangereux de jouer un match do or die à la vie à la mort, pour ceux qui parlent pas anglais, sur une troisième journée contre la Tunisie. Ensuite, cette équipe de France, elle démarre cette compétition avec très peu de certitudes, beaucoup de blessures, beaucoup de joueurs novices à ce niveau de compétition. Il faut donc capitaliser sur du positif. Tu peux pas te permettre de perdre, car ça mettrait trop de doutes sur cette équipe, ça mettrait trop de choses négatives sur des garçons qui découvrent cette compétition. Une équipe en construction, il faut qu'elle se bâtisse sur des bons résultats. Et parce que Ensuite, dernière chose, si tu fais une contre-performance contre le Danemark, t'enlèverais quand même pas mal d'ambition, je pense, à cette équipe de France sur la suite de la compétition, parce que tu serais susceptible de jouer des équipes bien meilleures que le Danemark, et ça ferait tâche de perdre contre le Danemark.
Okay. En gros, c'est vachement mieux de gagner que de perdre, c'est ça que t'es en train de nous dire, quoi. Mieux de gagner les matchs que de les perdre.
Alors, toi, tu vas m'expliquer que c'est mieux de le perdre. C'est pas grave si on perd. Donc, vas-y, je t'écoute.
Christophe Cessieux, pourquoi
alors, donc, mais vous dites, alors, capital, ça veut dire qu'il faut gagner tous les matchs, en gros. Il faut gagner tous les matchs sont capitaux dans une Coupe du Monde. Il n'y a pas des matchs qui sont plus capitaux. Il n'y a pas des matchs qui sont plus capitaux que d'autres.
Si. Le troisième, c'était déjà qualifié. Le troisième, tu peux mettre les coiffeurs.
Mais oui, et tu penses pas que les matchs en huitième de finale, c'est plus important. Là, c'est capital. Dans une compétition comme la Coupe du Monde, la phase de poule, si tu en gagnes un, c'est bon. Si tu en gagnes deux, t'es qualifié. Donc, tu peux gagner celui-là ou celui de la semaine prochaine. Et c'est surtout à partir des huitièmes de finale, évidemment, que les matchs sont capitaux. Parce que là, si tu ne gagnes pas, tu te fais sortir de la compétition.
Oui, si tu gagnes pas contre le Danemark, tu es pas sûr d'aller en huitième.
En 2002, on affronte le Danemark. Troisième match. Là, le match est capital. Parce que t'as perdu le premier, t'as fait match nul le deuxième, t'es obligé de gagner. Donc, c'est un match capital. Celui d'aujourd'hui est un match important. Évidemment, tu te confrontes à une nation importante qui nous a battus. Mais il n'est pas capital. Capital, c'est ça la différence.
Mais qu'est-ce qu'on entend par capital?
La capital, c'est celui qui permet de gagner ou de continuer la compétition.
C'est Paris, c'est Londres.
Mais non, mais c'est absurde parce que comme l'a très bien dit Christophe, mais quand tu dis capital, c'est pas capital dans la mesure où tu peux continuer l'aventure. T'as encore un match pour te sauver, donc c'est pas capital du tout.
Et alors évidemment que c'est important de gagner tous les matchs de Coupe du Monde.
C'est mieux de gagner que de perdre, comme l'a dit Christophe. Mais c'est pas capital pour moi. En aucun cas, c'est capital.
Après, la construction de cette équipe, vous êtes à cheval sur les mots. Évidemment, oui. C'est ce qu'on vous demande dans cette émission. La définition de capital dans le Robert.
D'accord.
Qui est le plus important? Le premier. Un événement capital.
Donc c'est pas capital.
Donc c'est pas capital.
La réponse du Robert donne la réponse à la question.
Okay. Voilà. Jean-Louis Tour et après. Jean-Louis Tour et après David Douillet.
Déjà, je suis un peu déçu. Je m'attendais à un peu plus de hauteur dans un débat dans cette émission, parce que si c'est juste pour nous dire si on perd pas, mais on est toujours qualifié. Si c'est un débat sur le résultat, c'est bien de gagner.
Ouais, ben voilà. C'est tout ce que tu méritais. C'est tout ce que tu méritais. Il voulait donner la leçon au vote et pas pour lui accompagner. Allez, voilà, passez au suivant, s'il vous plaît.
David Douillet, pour toi, ce n'est pas capital. Mais c'est vrai que la question, si on veut avancer un peu, si on veut prendre un peu de hauteur, comme nous dirait Jean-Louis Tour, on l'a bien savonné.
C'est vrai que dans cette régale, il y a de la hauteur, les gars. On touche les cimes.
C'est de savoir si c'est un tournant pour cette équipe de France aussi, parce qu'il faut engranger de la confiance. Et pour toi, c'est plutôt non quand même, David Douillet. Pourquoi ?
Moi, c'est non, parce que je trouve que quand on est engagé dans une compétition comme celle-là, qui est l'objectif de l'année, on doit être capable de battre tout le monde, et que ce soit le Danemark, le Japon, qui que ce soit, peu importe, on doit être une équipe rouleau compresseur, et s'il y a un accrochage et si on perd un match, surtout là en poule, bon, ok, mais quand on veut le titre, il faut être en capacité de battre n'importe qui et tout le monde. Il faut avoir ça dans la tête, et je crois que Didier c'est ce qu'il a dans la tête.
Oui, c'est pas fou ce que tu dis. C'est vrai que c'est la question
et j'espère qu'il a ça dans la tête, parce que il y a l'histoire qui montre que les deux derniers matchs ont été perdus, que il y a une petite musique qui essaye d'être un peu fomentée par tout le monde en disant voilà, c'est un peu, ça va devenir un petit peu la bête noire, c'est un peu la bête noire en fait, et en réalité non, c'est une équipe, le Danemark c'est 5 millions d'habitants, c'est une équipe régionale quoi, à l'échelle de la France quoi. Faut quand même pas délirer quoi.
Oui, non, mais t'as raison, on peut pas occulter le fait qu'il faut emmagasiner la confiance dans une telle compétition, ça c'est sûr. C'est-à-dire, on parle.
Surtout quand t'as zéro certitude.
Là, je vous rejoins dans le sens où le contenu est important. Ce qu'on va faire ce soir, cet après-midi, c'est important. Voilà. Alors, tu peux perdre, tu peux faire un match nul, mais tu peux perdre. Mais si tu t'es donné, si tu t'es engagé, si tu as quelques certitudes, ben, tu en sortiras plus fort, malgré la défaite.
Après, le tu peux perdre, Denis, t'es quand même bien tolérant. Tu peux perdre, c'est-à-dire que le dernier match contre la Tunisie, tu joues avec la trouille sur une équipe qui ne connaît pas ce genre de rencontre-là. C'est pour ça que moi, je préfère être peinard sur le troisième match.
Jean-Louis Tour est de retour. Il comprendra.
T'es jamais peinard sur aucun match. T'es jamais peinard
sur le troisième match, David.
Oui, non, mais. Ah oui, non, mais en comptabilité, mais en match gagné, en équipe, en victoire, etc., t'es jamais peinard. Et il faut surtout pas être peinard dans la tête. Il faut surtout pas être peinard, jamais.
Jean-Louis est de retour, il comprendra oui, évidemment aisément que dès qu'il commence à critiquer les GG, bah nous on retire le cap, voilà,
non,
et
mais bon,
on provoque une censure.
Vas-y, on avait parlé de ces méthodes, mais bon. Alors, pour moi, le résultat n'est pas crucial, mais le match l'est, c'est tout. Et l'intitulé, c'est le match est-il crucial. Donc voilà, le contenu, vous avez commencé à en parler, ça me paraît évident. Non, non, la question, c'est le match est-il crucial, est-il capital.
Pour moi, oui.
Pas crucial.
Attention, pour moi, oui, il est capital.
Tous les matchs sont dans ce cas-là.
C'est pour savoir si on repart à zéro ou pas après ce match. Parce que selon moi, si on n'a pas une prestation aboutie, si on n'a pas une solidité défensive contre un adversaire de haut calibre, eh bien, ce qu'on a fait contre l'Australie, ce sera balayé et on n'aura aucune certitude sur le niveau de l'équipe de France. Là, ce soir, c'est un vrai révélateur contre une nation solide, contre une nation montante qui a fait un très bel Euro 2021, qui nous a battu deux fois. Donc là, on saura vraiment ce que vaut cette équipe de France en termes de solidité et pour savoir si on peut aller loin dans la compétition. Et en plus de ça, vous en avez sans doute parlé, mais on a vu en 98 et en 2018, quand on l'a gagné, et ben les deux fois, on a remporté les deux premiers matchs et on a pu le faire tourner. C'est important aussi.
C'est vrai, mais je voudrais juste apporter une nuance à ce que vient de dire Jean-Louis, parce qu'on a souvent, même tout le temps, eu l'habitude, évidemment, que ça se passe l'été, et que l'été, il y a un côté préparation. On monte en puissance parce que ça se passe sur 5 semaines, parce qu'on sait que les phases de poule, historiquement, on n'a jamais été les plus beaux, les meilleurs. 2006, 98, c'est un peu moins vrai, mais 2018, on a démarré poussivement. Alors que là, il faut être prêt tout de suite. C'est 4 semaines, il n'y a pas de préparation.
Donc c'est pour ça, qu'il faut être bon.
C'est pour ça que c'est hyper important.
C'est pour ça que c'est hyper important, j'y sais, parce que tu perds, tu retombes,
tout le monde a dit que c'était important. Je comprends même pas le débat, c'est que nous, évidemment,
Denis, Christophe et David, j'ai l'impression que pour vous, c'est pas très important, c'est pas grave si on joue la qualif sur un troisième match à pression.
C'est pas ce qu'on a dit, c'est pas du tout.
On t'a pas dit que c'était pas important.
On te pose la question de savoir s'il est capital. C'est est-ce que c'est le match le plus important? Une fois que tu as gagné ton premier match, ce n'est plus le match. Mais si on avait fait match nul ou si on avait perdu face à l'Australie, il était capital. Mais en termes
mathématiques,
c'est
le raisonnement des pieds.
Dans la perspective de projeter sur le Tant qu'on est en phase de poule, Jean-Louis, t'es obligé de faire l'épicier. Partir des matchs éliminatoires directs, il n'y a plus d'épicier.
Je suis pas d'accord. C'est pas parce qu'il y a le coup près de l'élimination que le match est forcé. C'est pas parce qu'il n'y a pas le coup près de l'élimination que le match n'est pas important ou n'est pas capital. Moi, je suis désolé. Non, mais capital, c'est pareil. Arrêtez ne jouez pas sur les mots.
Ce n'est pas
si, c'est.
Arthur Robert.
Et laissez le petit Robert faire son travail.
On va couper la ligne, attention.
On va couper la ligne, Jean-Louis.
Denis Charvet.
Je voudrais rappeler que dans l'histoire de la Coupe du Monde, il y a 3 équipes qui ont été champions du monde qui ont perdu un match en
poule. Nous, ça nous arrive pas.
D'accord, laisse-moi finir. Et après, il y en a un nul en 2006 où l'Italie a fait un nul contre la Corée du Sud. Enfin, il y avait la Corée du Sud et le Togo, je sais pas. Il y a eu un nul.
Oui,
l'Italie a été champion du monde en 2006 en faisant un nul en
La Corée du Sud et le Togo, ça c'était notre groupe, hein. C'était pas le groupe de l'Italie. Mais.
Je veux savoir qui t'a envoyé
Je t'assure que non.
Pourquoi 2006 c'est notre groupe?
Non, 2006 ça ne pouvait pas être Italie Togo.
Suisse en faisant un match nul en poule.
Peut-être, mais ça, notre groupe c'était Suisse, Corée du Sud et Togo. Voilà. Mais ça c'était le groupe de la France, pas d'Italie. David, tu voulais rajouter sur ce débat?
Ouais, Stephen a un peu raison dans le sens où ça peut être aussi quand même un match qui va souder, qui va cimenter l'équipe s'il est gagné, voilà. Et pour les huitièmes, pour le coup, quand tu as fait deux belles prestations comme ça, c'est pas capital, mais c'est quelque chose qui est significatif.
Ok, oui, je suis d'accord.
C'est quelque chose qui, tu vas souder, tu vas donner de la confiance, amener un peu plus de sérénité, les garçons aient la tête froide, parce qu'il faut avoir la tête froide pour faire la suite.
On est quand même d'accord que, avant que la compétition commence, quand on a perdu Benzema, quand on a perdu Nkunku, quand on a perdu Hernandez, on était tous d'accord pour dire que cette équipe, elle était quand même jeune, sans beaucoup d'expérience sur ce genre de compétition. Et donc, moi, j'estime que quand vous avez une équipe jeune comme ça, qui manque un petit peu de confiance et de vécu, c'est quand même bien d'aborder un troisième match en étant sûr d'être qualifié. Parce que vous allez mettre une pression sur des gamins qui découvrent une Coupe du Monde.
Non, mais ça,
sur
un match contre la Suisse. Et même, Stephen, en ayant.
Moi, j'ai pas envie de ça.
Le mot de la fin.
Et même en ayant une référence solide contre un adversaire costaud, tu t'en serviras plus tard dans la compétition, en huitième, en quart, en demi, quand il faudra ressortir un bloc et une vraie défense. Et ça, pour l'instant, tu ne l'as pas cette confiance, parce que tu as trop d'incertitudes sur cette équipe.
Et peut-être, pour ne pas
pas un match capital.
Et peut-être pour ne pas se créer trop de nœuds au cerveau pour Didier Deschamps, parce que Loïc Braillet, il change quand même quasiment toute sa défense pour cette rencontre. En tout cas, on met le conditionnel, ça devrait être le cas.
Oui. Bon, on peut quasiment l'enlever, même le conditionnel. Alors évidemment, avec le forfait de Lucas Hernandez, c'est son frère qui a quasiment joué tout le match d'ailleurs contre l'Australie, du coup, qui sera évidemment titulaire sur le côté gauche. Le grand retour, c'est celui de Raphaël Varane, qui a parfaitement respecté son protocole de reprise. Hein. Il a plus joué un match depuis le 22 octobre quand même, Varane, donc ça va lui faire peut-être un petit peu drôle. Pas sûr du tout qu'il joue tout le match, évidemment. Il sera titulaire aux côtés d'Upamecano en charnière centrale. La grosse info, c'est sur le côté droit de la défense, puisque Pavard, qui était en difficulté contre l'Australie, a été sacrifié, entre guillemets, le mot est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas il va débuter sur le banc, remplacé par Jules Koundé côté droit. Lloris dans les buts, bien sûr. 140 sélections pour Lloris, qui se rapproche de Thuram. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann, on reprend les mêmes. Et devant, évidemment, le trio qui lui a fait un énorme match contre l'Australie, ne bougera pas non plus, Mbappé, Giroud et Ousmane Dembélé.
Merci beaucoup Loïc Braillet pour toutes ces informations, à retrouver évidemment sur rmcsport.fr. On en parlera à 10h50 d'ailleurs de cette composition de l'équipe de France.
Parce que il y a des choses, il y a quand même des choses à dire.
Oui, je viens de dire qu'on en parle à
10h50.
10h50, voilà.
Oui, t'attendras à 2 minutes,
toi. Non, 10 minutes avant la fin.
Non, là, t'as pas le droit de parler, là, Christophe.
Alors, attends, c'est très intéressant ce que tu viens de faire au niveau de la sémantique. Parce que tu viens de dire, est-ce qu'on peut en parler 2 minutes? Je te dis oui, on en parlera à 10h50. Et tu me dis, ah ouais, donc on en parlera 2 minutes. Bah oui, c'est ce que tu voulais, qu'on en parle 2 minutes. Donc ce sera 10h50. C'est parfait.
T'as pas été faire un stage au Qatar, toi, t'es un dictateur, qu'on peut rien faire dans cette émission, quoi. On n'a pas à mettre de couleur.
Réglez sur l'automne de Christophe, s'il vous plaît.
Par contre, il a le droit, il boit des bières, par contre, j'y sais.
Et j'ai le droit au t-shirt arc-en-ciel. Ici, ouais. Merci beaucoup, Jean-Louis. Jean-Louis, on te retrouve dans une demi-heure pour parler d'Olivier Giroud, de Karim Benzema. Olivier Giroud a-t-il fait déjà oublier Karim Benzema?
Avec plaisir. J'espère qu'il y aura un peu plus de hauteur dans le débat, quand même.
Surtout pour toi.
Va te coucher un peu, faire la sieste pour être meilleur dans une heure.
À tout à l'heure, mon cher Jean-Louis.